Les ondes des ailes sur Radio Ondaine, un rendez-vous mensuel avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de la Loire. Un tour d'horizon en vol groupé pour découvrir les oiseaux de notre territoire, la faune, la flore et toutes les personnes qui s'engagent pour connaître, protéger, sensibiliser et favoriser la biodiversité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO Loire, une association au service de la nature et des hommes, sur Radio Ondaine 90.9 FM et sur le www.radio-ondaine.fr.
Et pour ce numéro du mois de février, nous allons parler du faucon pèlerin et c'est avec Jean-Pascal Favergeon que nous allons discuter de ce rapace-là. Bonjour Jean-Pascal, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine.
Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir, de nous consacrer du temps.
Alors effectivement, depuis quelques mois maintenant sur les ondes de Radio Ondaine, nous avons ce rendez-vous mensuel des ondes, des ailes, proposé en collaboration avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. On cherche des sujets chaque mois à discuter et puis à traiter au niveau de notre radio. Et ce mois-ci, c'est le mois consacré aux faucons pèlerins. Pourquoi d'ailleurs ce mois de février, est-ce que c'est une période propice pour observer ce rapace?
Alors effectivement, entre le 15 février et le 15 mars ont lieu les parades du faucon pèlerin, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'ils vont choisir de nicher, de s'installer à un endroit, et ils ont un comportement un peu particulier avec des vols un peu acrobatiques. Le mâle va faire des piquets assez vertigineux durant lesquels il peut dépasser les 400 km/h pour épater la femelle. Il va lui faire des offrandes. Et donc voilà, c'est une période qui est très intéressante aussi pour localiser les nouveaux couples qui peuvent s'installer par exemple sur un immeuble. Et à ce moment-là, c'est très intéressant de le repérer puisque on va prévenir le propriétaire et éviter les dérangements pour ce nouveau couple.
Alors pour le repérer, il faut d'abord le reconnaître. Comment est-il cet oiseau-là, ce rapace-là? Quelles sont ses caractéristiques physiques?
Alors, le faucon pèlerin est un rapace de taille moyenne. Son envergure est d'un mètre environ. Les parties supérieures de cet oiseau sont noires, on va dire le dos et les ailes sont noires, gris ardoisé. Et les parties inférieures sont blanc crème avec des stries verticales pour un jeune et horizontales pour un adulte. Il a aussi un espèce de petit casque d'aviateur avec des espèces de moustaches noires qui descendent. Et le tour de l'œil et la base du bec sont jaunes. Voilà. Et le risque de confusion le plus important, c'est avec son cousin, le faucon cresserelle, qui lui est beaucoup plus fréquent déjà, et plus sur des tons de marron. Voilà.
Ce faucon pèlerin, où est-ce qu'on l'observe? Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il puisse nicher dans un immeuble. On peut aussi le voir sur des falaises, des parois de falaises, me semble-t-il. C'est un oiseau qui évolue dans quel milieu?
Alors, son milieu naturel dans lequel il évolue depuis des dizaines de milliers d'années, ce sont les falaises, les milieux rupestres. Et il s'est aperçu récemment, au cours des dernières décennies, qu'en ville, il y avait énormément de pigeons qui n'ont pas de prédateurs. Et donc, c'est le faucon pèlerin de lui-même qui est venu s'installer sur les bâtiments très hauts. Alors, ça peut être les immeubles, ça peut être les églises. Disons que ça recrée un peu le milieu rupestre avec une certaine hauteur dont il a besoin pour se sentir en sécurité, parce que quand on fait un nid sur une falaise de 50 mètres de haut, eh bien les prédateurs terrestres ne peuvent pas les atteindre, et il retrouve ce sentiment de sécurité qu'il a en lui sur ces bâtiments de grande hauteur.
Alors justement, dans la chaîne alimentaire, comment il se place? Qui sont ses prédateurs? Qui peuvent être ses prédateurs? Quelles sont ses proies? Parce que vous évoquiez les pigeons. De quoi se nourrit-il, cet oiseau?
Alors, il a un régime alimentaire bien particulier. Il s'agit d'un rapace ornithophage, c'est-à-dire qu'il va se nourrir exclusivement d'autres oiseaux. Et de plus, il va les capturer d'une manière un peu assez spectaculaire, puisqu'il chasse uniquement d'autres oiseaux qu'il capture en vol. C'est aussi pour ça qu'il a besoin de reposoirs dominants pour voir les oiseaux arriver et ensuite pouvoir les pourchasser et les attraper en vol. Ensuite, il va sur un lieu. Souvent, ils ont l'habitude de manger toujours au même endroit. Ils ont leurs petites habitudes, les faucons pèlerins. On appelle cet emplacement un lardoir. C'est là qu'il va plumer et puis consommer sa proie. En ville, ses proies principales sont les pigeons et les étourneaux. Voilà. Son régime alimentaire est un peu plus varié quand il est sur une falaise naturelle, puisqu'il y a une plus grande diversité de proies potentielles.
Alors c'est vrai que là, si on imagine ce faucon pèlerin attaquer un pigeon en ville, ça peut être spectaculaire. D'ailleurs, le pigeon est quand même une grosse proie pour lui.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est très spectaculaire de voir chasser un faucon pèlerin et je souhaite à chacun des auditeurs de pouvoir observer ça dans des jumelles. C'est vraiment incroyable. Donc en fait, le faucon pèlerin va voir un vol de pigeons qui s'approche, qui vient dans sa direction il va faire ce qu'on appelle un vol d'amont, c'est-à-dire qu'il va le prendre de l'altitude, et ensuite il va accélérer, et ensuite il va plonger vers le bas et prendre de la vitesse avec la pesanteur en fait. Il va se mettre dans une position très très aérodynamique qui ressemble à celle d'un obus en fait. Il est vraiment profilé pour les hautes vitesses il va prendre énormément de vitesse donc et percuter les proies en vol. Souvent, il les tue sur le coup tellement l'impact est fort. C'est vraiment un oiseau qui est taillé pour la vitesse. Par exemple, même ses les larmes qu'il a au niveau de ses yeux sont très très épaisses pour quand même lubrifier son œil même à haute vitesse. Il a également un petit appendice sur les narines qu'on appelle un frelon qui est là pour éviter les turbulences aérodynamiques, parce que avec de telles vitesses, si l'air s'engouffrait dans sa boîte crânienne, ça pourrait lui faire exploser le ciboulot.
Voilà, donc tout est bien fait, il s'est bien adapté finalement à son mode de fonctionnement ou l'inverse. Bref, ça c'est l'évolution un peu des espèces. Sa vie, son lieu de vie, c'est aussi l'évolution, hein, des falaises à pourquoi pas des clochers. Il vit comment ? Est-ce qu'il est solitaire ? Est-ce qu'il est en groupe ? Est-ce qu'il est en couple ? Et puis, quelle est sa période d'activité durant l'année et puis même durant une journée ?
Alors, par où commencer ? Le faucon pèlerin est un oiseau territorial, c'est-à-dire que lorsqu'un couple choisit de s'installer, par exemple dans la Loire, on a un couple sur les cheminées de Châteauneuf, sur la cheminée de Saint-Chamond, on n'a qu'un couple en place. Il va pas tolérer, on n'aura jamais une colonie de faucons pèlerins comme on peut avoir des colonies de moineaux. Non. Et lui, il va défendre son territoire et il va rester toute l'année. On s'en rend compte grâce aux caméras qu'on a installées sur les nichoirs des cheminées de Châteauneuf et de Saint-Chamond, où on peut les suivre en direct. Hein. C'est très facile. Il suffit de taper faucon pèlerin Saint-Chamond ou faucon pèlerin Châteauneuf sur YouTube et vous arriverez sur les vidéos en direct. C'est un oiseau donc qui va défendre son nichoir toute l'année. Sa période de parade se déroule entre le 15 février et le 15 mars. Dans la Loire, les couples ont tendance à pondre fin février ou début mars. Ensuite, on a une période grosso modo d'un mois de couvaison. Et ensuite, les parents vont élever les jeunes pendant 6 semaines. Et puis ensuite, ils vont pouvoir prendre leur envol. C'est une période un peu risquée pour eux parce que quand ils prennent leur premier envol, ils peuvent le rater. Ils peuvent se retrouver au sol parce qu'ils manquent de puissance, ils manquent de technique pour pouvoir voler. Et c'est pas évident de prendre son envol quand on a un nichoir qui se trouve à 70-80 mètres de haut. Et donc, il nous arrive parfois de devoir récupérer des jeunes et puis les remettre en hauteur pour qu'ils puissent retenter un décollage, parce que partir du sol c'est compliqué pour eux.
D'accord.
Quand ils sont inexpérimentés. Donc ça c'est c'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire plusieurs fois, et c'est vrai que c'est une des rares occasions qu'on a de voir un prestigieux faucon pèlerin qui est un des rapaces les plus beaux au monde, tout simplement, avec l'aigle royal. C'est vraiment ce sont vraiment des rapaces fascinants, qui fascinent l'homme d'ailleurs depuis des milliers d'années, puisque chez les Égyptiens, le dieu Horus, si vous regardez de près, il a exactement une tête de faucon pèlerin. Donc voilà, c'est un oiseau qui fascine l'homme depuis vraiment des milliers d'années. Et puis c'est marrant d'ailleurs, il cohabite avec l'homme aussi depuis des milliers d'années, puisque à l'époque où nous vivions dans des cavernes, lui aussi vivait sur les falaises, plus haut dans la falaise. Et maintenant on retrouve cette cohabitation dans les immeubles, avec nous qui habitons à l'intérieur et lui qui habite au sommet ou sur une façade, comme c'est le cas sur Lyon par exemple, où on a des faucons pèlerins qui nichent sur des immeubles.
Alors vous parliez donc de ces périodes de reproduction et ces petits. Quel est le taux de mortalité? Alors on va le prendre du côté positif. Voilà, est-ce que un couple peut chaque année se reproduire avec un nouveau faucon pèlerin qui vivra sa propre vie, ou est-ce que c'est une espèce quand même que l'on doit surveiller?
Alors. C'est une très bonne question. Quand on a installé le premier nichoir en 2007 sur la cheminée de Saint-Chamond, le faucon pèlerin ne s'était pas reproduit dans la Loire depuis 1976. Le faucon pèlerin avait pratiquement disparu de France et d'autres pays dans le monde d'ailleurs, dans les années 60-70, à cause d'un pesticide qui s'appelait le DDT, qui soit tuait la femelle ou les adultes directement, soit perturbait le métabolisme du calcium chez la femelle. Et donc la femelle pondait des œufs qui avaient une coquille molle. Et quand elle allait couver, elle pouvait casser ses œufs. Donc voilà, le DDT a été interdit. Alors, malheureusement, pas pour protéger les faucons pèlerins, mais parce qu'il était également cancérigène pour l'homme. Donc voilà, ça démontre que, en fait, quand on balance un poison dans la nature, même si égoïstement on se fout des répercussions que ça peut avoir sur la faune, tôt ou tard, ça nous revient dans les dents. Donc voilà. Donc, quand on a installé ce premier nichoir en 2007, c'était optimiste pour un oiseau qui n'avait pas niché dans la Loire depuis 30 ans. Et on en a installé d'autres. On en a installé donc à Saint-Étienne, on en a installé récemment sur Roanne, et on en a installé également sur Lyon, puisque j'ai bossé pendant 9 ans sur Lyon, et j'ai installé d'autres nichoirs là-bas. Alors, le Rhône, c'était un petit peu la même chose. Hein. Le faucon pèlerin ne s'y reproduisait plus depuis des années. Et donc, on a installé plusieurs nichoirs là-bas, dans le Rhône, et ils ont commencé à marcher dans le Rhône. Au début, un couple, deux couples, et puis ça fonctionne assez bien. Maintenant, on a 4 couples dans le Rhône, et on a maintenant 9 couples dans la Loire. Et ça, c'est assez génial. C'est quelque chose dont on est assez fier dans la LPO Loire et la LPO Rhône, puisque vraiment, ce sont les actions de la LPO qui ont porté leurs fruits et qui font qu'on a une belle population de faucons pèlerins à présent.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez donc installé des caméras pour une sorte de télé-réalité de la vie des faucons pèlerins. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution si l'on souhaite les observer de plus près? Voilà, comment on fait? Est-ce qu'il faut d'ailleurs vous appeler? Est-ce que à la LPO vous organisez aussi des moments d'observation du faucon pèlerin?
Alors oui, chaque année on fait des campagnes, enfin une journée de prospection, c'est-à-dire on va parcourir tous les différents sites connus de la Loire le même jour. On va donc faire, on va prospecter une trentaine de sites et on va chercher à savoir combien on a de couples exactement. Ça va permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de suivre précisément leur évolution. Si si leur nombre augmente ou si au contraire le nombre diminue, il peut y avoir un problème, par exemple comme on l'a évoqué tout à l'heure avec un pesticide. Donc voilà, c'est vraiment important de recenser, je dirais que c'est le premier travail des ornithologues pour pouvoir protéger une espèce, c'est de savoir comment évolue sa population. Voilà. Et ça va être le but de cette prospection. Et alors c'est vrai que cette prospection est plutôt réservée aux personnes qui sont membres de la LPO. Mais n'empêche que si des personnes qui ne sont pas membres de la LPO ont envie de voir un faucon pèlerin pour de vrai, il suffit de nous contacter et on pourra organiser une sortie, il n'y a pas de problème. On a également fait plusieurs conférences sur le retour du faucon pèlerin dans la Loire. Donc voilà, c'est l'occasion de partager un petit peu ce qu'on a fait, nos connaissances, et puis voilà, de montrer comment le faucon pèlerin est une espèce belle et exceptionnelle et puis fragile à la fois, hein, comme on l'a vu par le passé.
Alors, par coutume, nous avons l'habitude de terminer cette émission et ces numéros des ondes et des ailes sur Radio Ondaine par une anecdote particulière. Alors, vous aviez dit tout à l'heure, effectivement, le fait d'avoir récupéré un jeune au sol pour le remettre en hauteur. Mais si une autre anecdote vous vient sur vos périodes d'observation ou même des rencontres avec un faucon pèlerin, qu'est-ce que ça serait ?
Oui, alors j'ai un bon souvenir. Dans le Rhône, dans le quartier de la Part-Dieu, on avait un nichoir qui était installé sur la tour EDF, qui maintenant a été réhabilitée, s'appelle la tour Silex, et d'ailleurs un nouveau nichoir a été installé, et une caméra permet de les observer en direct. Voilà, à l'époque, une femelle assez énorme avait raté son envol et s'est retrouvée au sol. Donc je l'ai remontée une première fois sur le toit d'un bâtiment, et quelques jours plus tard, elle a été retrouvée au sol par d'autres personnes qui ont appelé les pompiers. Elle est partie en centre de soins. Et alors, je suis retourné la récupérer parce que c'est un oiseau qui doit impérativement apprendre à chasser après son envol avec ses parents. Sinon, c'est un oiseau qui est condamné. On peut pas récupérer un jeune en centre de soins, le nourrir et le relâcher. Il va mourir. Donc voilà, c'était très important que cette femelle qui avait un poids assez énorme, 1,2 kg pour une femelle, c'était très impressionnant. Elle a donc raté son envol une deuxième fois. On l'a remontée en haut du bâtiment et elle a encore raté son envol une troisième fois. Alors, c'était un dimanche matin, j'étais allé la récupérer. Je remonte en haut du bâtiment et puis là, c'est vrai que j'étais pas serein. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je la laisse tranquille pour voir si elle se débrouille, ou alors non, je me suis dit, allez, je vais provoquer un peu son envol pour voir si elle se débrouille. Et là, donc, je suis allé un peu vers elle pour la forcer à s'envoler. Et là, donc, elle a perdu de l'altitude et elle s'est mise à cercler. Et je me suis dit, oh là là, elle est en train de se fatiguer, elle va encore se retrouver au sol. Et puis non, au bout d'un moment, elle a réussi à prendre de l'altitude et aller se percher. Et donc là, du coup, elle était sauvée. Et je me souviens, c'était vraiment un moment sympa. Voilà, on avait consacré beaucoup de temps à cet oiseau et finalement il s'en était sorti. Et voilà, c'est un bon souvenir.
Merci pour cette anecdote. Merci Jean-Pascal de nous avoir présenté ce faucon pèlerin. Rappelons donc que ce mois est consacré à ce rapace sur l'antenne de Radio Ondaine pour cette émission des ondes et des ailes en partenariat avec la LPO. Merci à vous.
Merci encore. À bientôt. Au revoir.
Thank you.